Alors ce matin, ce qui est formidable, on poursuit hein, ce sujet autour de l'évangile, Dieu et l'évangile, cette bonne nouvelle, ce plan de secours entre Dieu et les hommes qui est tellement simple dans les faits, dans ce qu'il y a lieu de savoir. C'est ce que nous avions vu, hein. Je vous rappelle, il y a 15 jours, ce Messie qui est venu, qui a été crucifié pour nos péchés, qui est mort et qui est ressuscité. Tout ce qu'il y a autour de cette œuvre de Christ, on l'avait évoqué, et même tout jeune, on peut partager, présenter ce message. On peut saisir le contenu de cette annonce qui est une bonne nouvelle. C'est accessible. Mais en même temps, pour ceux qui cheminent avec le Seigneur depuis des années, c'est un sujet tellement riche, tellement vaste, profond, complet. Il y a tellement de choses à découvrir autour de ce message, autour de toute cette beauté, de toute l'ampleur de ce que ça veut dire, cette bonne nouvelle. Et c'est vrai, on va le voir ce matin, il y a de la place pour grandir, il y a de la place pour creuser, il y a de la place pour s'interroger, pour comprendre de mieux en mieux ce que veut dire cette bonne nouvelle pour nous au quotidien. C'est à la fois grandir dans ma connaissance de cette bonne nouvelle, dans ma connaissance de Christ, puisqu'on avait vu dimanche dernier que ce message tournait autour de cette personne de Jésus-Christ, parce que non seulement le projet de Dieu n'est non seulement de nous sauver, mais aussi de nous transformer à l'image de Christ, à l'image de son Fils. Il y a de la place pour grandir. D'ailleurs, juste après le texte qu'on va prendre d'ici peu, je voulais juste lire ce que nous dit Paul, et qui s'adresse à cette église de Corinthe, et qui leur dit au chapitre 3, « Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, vous-même, vous ne le pouvez pas. » Paul est en train de dire, vous êtes des chrétiens, mais comme des enfants. Paul dit aux chrétiens, vous croyez en Christ, mais il y a de la place pour grandir. Pour grandir de votre foi, dans votre compréhension de la bonne nouvelle, dans votre maturité à l'image de Christ. Il y a de la place, mes amis, pour grandir. Et ce projet de série qu'on a eu à cœur avec les anciens de vous partager, et non seulement de revenir à ce qui est l'essentiel, mais aussi nous encourager à grandir dans notre compréhension de ce que c'est cette bonne nouvelle, pour grandir à l'image de Christ. Et on va voir avec le texte de ce matin que l'évangile est une sagesse qui dépasse la sagesse humaine. Et que pour cela, et ça rejoint peut-être les différents partages, témoignages qu'il y a déjà eu, il faut une révélation, il faut un éclairage spécifique de Dieu pour voir, pour comprendre ce message qui paraît si simple. Il faut une révélation. J'invite Ruth pour la lecture du texte de 1 Corinthiens. On est au chapitre 2.
Alors je lis dans 1 Corinthiens 2, les versets 6 à 16. C'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons parmi les hommes mûrs, mais une sagesse qui n'est pas de ce temps ni des chefs de ce temps, qui sont voués à la destruction. Non, nous annonçons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'œil n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé, par son Esprit, car l'Esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les pensées de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et nous en parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi nous employons un langage spirituel, pour exprimer ce qui est spirituel. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ.
Merci Ruth. Alors regardez simplement, pour ceux qui ont vos Bibles, juste dans le passage avant ce texte, ce qu'il nous dit au début de ce chapitre 2, les versets 1 à 2. « Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, Ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu, ou on pourrait dire la bonne nouvelle. Car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Là, vous voyez, dans ces deux versets, on retrouve déjà les éléments qu'on a partagés ces deux derniers dimanches. Et dans ce passage, il y a quelque chose, même avec les versets que Ruth vient de nous lire, quelque chose d'encourageant pour tous les chrétiens. Nous devrions être tous encouragés par les paroles de Paul. Paul est un homme, on l'avait vu avec le livre des Actes, un homme éloquent, un homme capable, un homme cultivé qui a eu un ministère incroyable, qui a parlé peut-être comme personne. Mais vous avez vu ce qu'il nous dit ici ? Ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer la bonne nouvelle. Paul nous dit que tu n'as pas besoin d'être un grand orateur. Tu n'as pas besoin d'être un grand communicateur pour annoncer, pour partager l'évangile. Parce que ce n'est pas là que réside la bonne nouvelle. Ce n'est pas là que réside la puissance de l'évangile. C'est pas ton éloquence. Il ne prêche pas pour plaire ou divertir les auditeurs. À l'heure des médias, des réseaux sociaux accessibles, je sais pas vous, mais il y a des personnes qui sont juste exceptionnelles dans la manière de communiquer. Ils sont exceptionnels dans la manière de capter l'attention de ceux qui les écoutent, d'un auditoire, d'une foule. Et parfois, on paye des sommes pour écouter des personnes échanger, partager pendant des heures. Une foule, on remplit des meetings. Mais pour la bonne nouvelle, il n'y a pas besoin de cela pour annoncer l'évangile. Parce que la puissance, parce que le secret de cette bonne nouvelle ne réside pas dans l'éloquence de l'orateur. Et c'est ça l'évangile. La puissance, la force de ce message n'est pas dans le messager, mais dans le message. La force de la bonne nouvelle n'est pas dans nous, dans ce que nous allons dire, mais dans le contenu de ce message. Paul nous dit, j'aurais beau être, je sais pas qu'est-ce que vous mettrez vous comme orateur ou prédicateur que vous suivez, en France ou à l'étranger. Moi je mettrais un Florent Varac, un John Piper, un Paul Washer, un Timothée Keller. Vous connaissez pas ces noms, mais moi quand j'ai dit, oh, ils ont une capacité à nous expliquer l'écriture, un MacArthur. C'est pas cela qui fait la différence, mes amis. La puissance est dans l'évangile. La sagesse est dans le message. Et je peux vous partager cette bonne nouvelle, et vous pouvez partager cette bonne nouvelle du moment où vous l'avez reçue dans votre cœur. Cette sagesse divine. Et voilà comment je résumerai le texte que Ruth nous a lu, qui est assez compliqué, mais je vous propose d'essayer de le voir assez simplement. L'évangile est la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée à la sagesse humaine, mais l'Esprit nous l'a fait connaître. L'évangile est la sagesse de Dieu. La bonne nouvelle est la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée à la sagesse humaine. Mais l'Esprit nous l'a fait connaître. Alors mon premier point, c'est simple. L'évangile, sagesse de Dieu. Et non pas la sagesse humaine. Et c'est ce que souligne Paul en poursuivant simplement juste avant notre texte, versets 3 à 5 de 1 Corinthiens, je crois que je l'ai. J'ai été faible, craintif et tout tremblant chez vous. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Paul nous dit, et c'est ce que je viens de dire, n'est pas un grand orateur. Il n'a pas présenté des arguments incomparables, mais il nous dit que c'était une démonstration de puissance de la sagesse de Dieu. L'évangile, mes amis, est la sagesse de Dieu. Regardez les versets 6 à 8 que Ruth nous a lu, mais que je vous propose de regarder, c'est le texte. C'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons parmi les hommes mûrs, mais une sagesse qui n'est pas de ce temps, ni des chefs de ce temps qui sont voués à la destruction. Non, nous vous annonçons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, celle que Dieu avant tous les temps avait préparée d'avance pour notre gloire. Ce message, cette bonne nouvelle, cette sagesse de Dieu semble comme une folie aux yeux des hommes, au point que ses contemporains ont mis à mort le Fils de Dieu. Les hommes ne réalisant pas combien la bonne nouvelle, elle est belle, c'est un beau message, il est glorieux, c'est un trésor. C'est pas un message qui vient des hommes, mais un message qui vient de Dieu. Une sagesse de Dieu. Si je reprends les mots de Paul, mes amis, quand tu découvres cette bonne nouvelle, quand cette bonne nouvelle te touche, tu te dis juste, bah, ce message, il est incroyable, il est beau, il est logique. Ce plan de secours, ça tombe sous le sens, c'est merveilleux. Ça tient la route. Quel autre message explique le mieux l'existence humaine, explique le mieux l'amour que Dieu a pour ses créatures, qui explique le mieux comment Dieu souhaite réconcilier les hommes avec lui-même? c'est une sagesse qui vient de Dieu et non des hommes. Et quand on reprend le verset 7, hein, il dit « On annonce une sagesse de Dieu mystérieuse, celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour la gloire. » Ce message de la bonne nouvelle remonte pour Paul à très 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 loin, avant la création du monde. Un message qui n'est pas juste un phénomène de mode. Message mystérieux, caché avant les siècles. C'est pas certains juifs, il y a 2000 ans, qui se sont dit qu'ils allaient nous concocter un bon message à la mode, qui soit cool, qui soit pertinent, qui soit pour leurs contemporains qui vivaient sous le joug romain. Non, Paul est en train de dire, ce message que j'annonce, il remonte à si loin. Il vient du cœur même de Dieu. Et pour ceux, je l'ai déjà évoqué dimanche dernier, même ce matin, pour ceux qui sont dans l'évangile de Matthieu, Matthieu fait ce lien entre Jésus-Christ qui accomplit ce que Dieu avait préparé depuis déjà des siècles. Jésus accomplit les promesses prononcées des siècles avant. C'est ça la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle provient non pas des Juifs il y a 2000 ans, de ses disciples qui ont réussi à composer quelque chose, mais provient du cœur de Dieu bien avant la création du monde. Ça vient de Dieu. C'est pas né de la dernière pluie. Vous savez, dans ce monde, la sagesse du monde, des hommes, il y a toujours eu des modes, il y a toujours eu des phénomènes, des courants de pensée, des nouvelles qui apparaissent et qui sont séduisantes. Je parlais tout à l'heure des orateurs éloquents qui nous présentent une réflexion humaine, une réflexion sur le sens de la vie. Et j'y reviendrai dans quelques instants. Non pas une sagesse humaine, mais une sagesse de Dieu. La bonne nouvelle vient de Dieu, mes amis. Si on prend le temps d'y réfléchir, c'est vrai que une telle histoire, cela ne s'invente pas, sauf si cela vient de Dieu. Un Dieu créateur qui vient sauver, qui vient se donner à sa création qui l'a rejeté, à sa création qui ne voulait pas de lui. C'est ce que les enfants ont vu ces dernières semaines, lors de leur temps à eux. Une création qui voulait pas, rejeter, rebelle, qui s'entretue, qui s'entredéchire, qui rejette, qui souhaite, rejette toute autre autorité. Un Dieu créateur qui vient se donner pour faire de nous des nouvelles créatures animées par Jésus-Christ. Et Paul ici est en train d'opposer ce plan extraordinaire sagesse de Dieu à la sagesse humaine. Et chez les hommes, il y a toujours eu des modes de pensée, des courants avec des idées parfois intéressantes, parfois bonnes, qui viennent changer nos modes de pensée, notre culture sur la question de l'individu, sur la question des autres, sur la question de la société, du bien, du mal, de notre identité. Alors, moi, je suis pas du tout le spécialiste, j'étais pas du tout assidu en cours de philo, mais il y a toujours eu des penseurs, Rousseau, Nietzsche, enfin vous pouvez mettre ce que vous voulez, Freud, Karl Marx, etc. Il y a plein eu des grands hommes qui ont pris les problématiques humaines, qui ont réfléchi, qui ont émis des idées, et qui aujourd'hui peut-être sont dans notre culture, dans notre manière de penser. Toujours des phénomènes de mode. Je suis pas un spécialiste, hein, mais on pourrait se demander c'est quoi aujourd'hui la sagesse des hommes, la sagesse humaine. C'est quoi qui est important dans notre société où on ne jure que par ça, par exemple, où on nous dit ça c'est vraiment important. En fait, en réfléchissant, je suis pas très bon, hein, parce que dans ce domaine-là, de réfléchir à la sagesse aujourd'hui que nous présentent les hommes, mais c'est quelque chose autour de notre identité, autour de notre moi. Tous les débats qu'on a autour de l'identité de genre, l'idée, la question de la laïcité, les débats sur les droits de l'enfant, d'avoir H24 accessible à tout ce qu'on a envie, à ce mode du commerce. À des likes, j'aime ce que tu dis, j'aime pas ce que tu dis, etc. Cette capacité à... Il y a quelque chose autour de notre valeur à soi. Je dois définir quelque part mon identité sans aucune contrainte. Je dois être libre. Et personne n'a le droit de me dire un mot sur ce que je dois, comment je dois me définir. Je dois le découvrir en moi-même. Je pense que c'est quelque chose qui doit être assez ressemblant à ça, ce qui est à la mode. Et je pense que nos aînés, qui ont peut-être déjà 50 ans avec le vie du Seigneur, ont vécu déjà dans les 50 dernières années des phénomènes de mode, de société, qui sont déjà passés. Des choses qui étaient tellement importantes, qui aujourd'hui sont loin. Cette mode va passer. Mais l'évangile, Paul nous dit, l'évangile c'est pas une mode qui va passer, c'est pas une sagesse humaine, c'est une sagesse de Dieu qui devance tout cela. Et ce que j'aimerais nous aider à retenir dans tout cela, c'est que, et pour être aussi confiant, ce message, la bonne nouvelle, c'est pas juste un phénomène de mode. On peut être confiant dans la sagesse, dans la beauté de l'évangile qui est né bien avant notre naissance, qui est pas juste quelque chose d'aujourd'hui. J'ai les deux pieds, si on peut dire, si on est chrétien, dans une sagesse de Dieu qui remonte à la nuit des temps, qui vient du cœur de Dieu. Alors c'est vrai, la sagesse des hommes aujourd'hui répond à des problématiques humaines ou d'une société, mais ça dérape, ça va trop loin et ça devient la religion du moment. Mes amis, l'évangile est une vieille affaire. Je sais que ça fait pas très vendeur. C'est poussiéreux, c'est quelque chose qui remonte loin, nous dit Paul. Et quand je réfléchis parfois dans certaines de nos familles, et je sais qu'en échangeant avec d'autres, certains ont des arrière-arrière-grands-parents qui ont compris cette bonne nouvelle. Vous imaginez quelque chose qui a quelques siècles, en 1800, des gens qui ont compris l'évangile, et ça a touché vos cœurs. Mais c'est bien plus que des arrière-arrière-grands-parents. Il y a des gens qui ont été touchés ici, comme Paul, il y a déjà 2000 ans, et bien au-delà. Des hommes et des femmes, des enfants croyaient à ce message de la bonne nouvelle. Ce qui aujourd'hui peut-être à la mode passera. Et c'est pour ça que nous voulons nous encourager à revenir à l'essentiel, à revenir à l'évangile, parce que cela, ça va pas changer. La sagesse de Dieu, elle se révèle dans cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais par contre, puisqu'elle vient de Dieu, et c'est aussi ce qui est compliqué peut-être de ce texte, bah Paul nous dit, et cela nous amène à notre deuxième point, c'est une sagesse qui a besoin d'être révélée par Dieu, qui a besoin d'être donnée. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne de connaître l'Évangile. Je l'évoquais et je le dis souvent, la bonne nouvelle c'est quelque chose de simple, ça se présente simplement. Mais pour qu'elle devienne une réalité dans nos cœurs et que j'y adhère, que ce message de la venue de Christ, de sa mort pour mes péchés, de sa résurrection puisse transformer ma vie et mon identité, ça c'est autre chose. Pour que je puisse me reconnaître comme justement séparé de Dieu, pour que je puisse me reconnaître comme pécheur, pour que je puisse me reconnaître comme quelqu'un d'incapable d'être sauvé, puis de me reconnaître comme gracié, comme sauvé par Dieu, pour que je puisse me reconnaître comme frère et sœur en Christ, pour me connaître héritier des biens promis de l'Éternel, délivré de la mort. C'est pas juste comme une idée simple, mais pour que cela devienne ma bonne nouvelle. C'est une œuvre de l'Esprit, c'est une œuvre de Dieu. Et c'est ce que nous dit le texte. C'est l'Esprit de Dieu qui vient nous montrer tout cela et qui nous révèle ces choses. C'est l'Esprit qui nous est donné, qui nous donne de comprendre cette bonne nouvelle. Verset 9, en citant un prophète Ésaïe, Paul nous dit « Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au corps de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qu'il aime. » Dieu l'a préparé pour ceux qu'il aime. Paul est en train de dire « Cette bonne nouvelle ne vient pas d'un cœur humain, d'une pensée humaine. Ce n'est pas l'idée des hommes, mais c'est quelque chose qui vient des pensées du Dieu, du cœur même de Dieu. » Poursuivez avec moi le verset 10. « Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé, par son Esprit. Car l'Esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. C'est à nous que Dieu l'a révélé, par son Esprit. » Et Paul nous donne l'argument par la suite. « Qui peut nous connaître mieux que soi-même ? En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Qui sur la terre vous connaît mieux que vous-même ? » Alors moi qui croit en l'existence de Dieu, je dirais « Dieu, bien sûr, il me connaît parfaitement, mais votre voisin ne vous connaît pas comme vous vous connaissez. » C'est là l'argument de Paul. Et il dit « Mais qui peut connaître Dieu ?» Si on imagine que Dieu est souverain, tout puissant, le Créateur, un Dieu saint, un Dieu parfait, un Dieu qui est loin, mais qui peut le connaître ? Si ce n'est, nous dit Paul, l'Esprit de Dieu. Comment je peux connaître Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu qui me donne de connaître Dieu ? Qui me donne de connaître cette sagesse de Dieu si ce n'est pas Dieu qui me le révèle ? C'est ce que je veux dire, hein. Mais en effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme ? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et verset 12. « Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. » Ça, c'est peut-être le verset clé à retenir pour nous aujourd'hui. On n'a pas reçu l'Esprit du monde, mais vous avez reçu l'Esprit qui vient de Dieu afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Afin de connaître l'Évangile, afin de connaître cette bonne nouvelle, vous avez dû eu besoin de recevoir l'Esprit de Dieu. Les choses que Dieu nous a données par grâce, c'est l'Esprit de Dieu. C'est lui qui a dû faire une œuvre dans vos cœurs. C'est par le Saint-Esprit que je peux connaître ces choses-là. C'est par le Saint-Esprit que cette bonne nouvelle est une bonne nouvelle pour vous. Alors je ne sais pas où on en est chacun dans cette bonne nouvelle avec l'Évangile, dans son expérience, dans son cheminement. Mais j'aime cette idée qui est présentée là que, en fait, pour que l'Évangile, ce message soit une bonne nouvelle pour vous, ça ne dépend pas de moi ou de toi. Pour que cette bonne nouvelle puisse être saisie, comprise, appréciée, il y a eu besoin de l'intervention de notre Dieu Créateur. Vivre l'expérience du christianisme, vivre l'expérience de la conversion, de la nouvelle naissance, n'est possible que par l'action du Saint-Esprit. Je ne peux rien faire, je ne peux pas y arriver seul. Et on a partagé plusieurs témoignages. Et on peut prier, on peut emmener ces sujets pour que Dieu parle par nos bouches, bien évidemment, mais que Dieu se révèle à leur cœur. Cette connaissance de la sagesse de Dieu ne passe pas par l'étude d'une pile de bouquins. Mes amis, si tu veux connaître Dieu, voilà, je t'encourage à lire tout ça. Ou je t'encourage à faire ce parcours en 3 étapes. Non. Pour connaître Dieu, il faut l'intervention de Dieu. Pour que ce message de la bonne nouvelle puisse être ton message, il faut que Dieu intervienne. Cette vie nouvelle, cette bonne nouvelle n'est pas, et c'est ce qui est tellement rassurant pour nous, n'est pas l'expérience des plus savants, des plus érudits de ce monde, des persévérants, de ceux qui se sont dit « allez, il faut que je... » de ceux qui sont les plus forts, non. Dieu nous dit « Dieu ne rejette pas celui qui cherche ». Si tu cherches un sens à la vie, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, Dieu se révèle à toi. Cherche-le, prie. Demande-lui de se faire connaître à toi, par la prière. Il est celui qui se fait connaître. Dieu, si tu existes, si c'est vrai, j'ai besoin que tu te révèles à moi. C'est bien plus que d'adhérer à une bonne idée. La bonne nouvelle, c'est une bonne idée que Dieu a eue avec nous. Mais cela a besoin de l'intervention de Dieu. Dieu aime cette démarche de celui qui se dit « Bah Dieu, on parle de toi, mais j'ai envie de te connaître !» Et Dieu répond. Sans son action, pas de conversion. Et au final, c'est tellement rassurant. Parce que ça ne dépend pas de nos capacités humaines. Ça ne dépend pas de notre passif. Ça ne dépend pas de notre éducation. Mais ça dépend de Dieu. Et Paul nous dit que cette sagesse-là est compréhensible et raisonnable par l'Esprit. Clarifions quelque chose ici. Quand on parle de l'Esprit, de l'éclairage de l'Esprit, on n'est pas en train de dire que c'est quelque chose, une expérience d'incompréhensible qui doit vous transporter ou je ne sais. C'est pas ça l'Évangile. L'Évangile, mes amis, est communicable. Il peut être résumé, il est compréhensible. Paul nous dit au verset 13, et nous en parlons. Non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, bien évidemment, mais avec celles qu'enseigne l'esprit. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Paul est en train de dire, nous en parlons. La bonne nouvelle, on en parle. Je vous dis, pour que cette bonne nouvelle devienne une réalité dans votre cœur, il doit y avoir cette intervention de Dieu. On la communique. Bien sûr, c'est un message spirituel. Ça veut dire quoi? C'est un message qui concerne notre relation avec Dieu. Un message qui concerne vos cœurs. Mais ce message-là, il s'enseigne à nos enfants. C'est pas une expérience qui nous transforme. C'est un message qui s'écrit sur du papier. Il n'y a rien de mystique. C'est quelque chose qui se lit. Vous pouvez faire un dessin pour le communiquer. Il y a tellement de BD qui parlent de cette bonne nouvelle. On dessine parfois un fossé avec une croix, enfin, etc. Ce message-là se dessine, s'écrit et se parle. C'est tout le message de la Bible. Vous pouvez l'articuler. Ce message, il peut être compris. Ça se discute. On peut le mettre en débat. Et on peut le comprendre rationnellement. Il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes et qui peuvent vous parler de la Bible comme moi je ne saurais pas vous en parler. Ils pourraient vous expliquer simplement ce message de la bonne nouvelle, mais pourtant ça n'a pas été quelque chose qui a été touché. On peut comprendre ce message rationnellement. Mais je ne peux pas être transformé par l'Évangile, je ne peux pas être transformé, être touché par l'Évangile s'il n'y a pas l'action de l'Esprit. Je ne peux pas dire que je suis transformé par ce message si Dieu n'est pas intervenu. Et si cette bonne nouvelle dont on parle depuis quelques semaines, et qu'on parle depuis des années, on pourrait dire ici, l'œuvre Christi, c'est ton histoire. Si elle est au cœur de ton identité, si c'est quelque chose que tu arrives à comprendre, que tu as compris, t'as pas tout compris bien sûr, mais que tu as compris, alors Dieu t'a parlé. Dieu t'a ouvert, Dieu a enlevé ce voile, l'Esprit Saint te l'a révélé. T'as pas besoin de chercher une autre expérience. C'est pas une philosophie de vie. Si c'est là où tu as trouvé ta paix, si c'est là que tu trouves ta confiance dans ton identité, si c'est là que tu trouves ta valeur, ces questions-là, cette bonne nouvelle ne peut s'expliquer que par le Saint-Esprit. Si toutes ces pensées-là font partie de ta vie, c'est que Dieu t'a éclairé. C'est que le Saint-Esprit est là et il est présent. Ne cherche pas autre chose. Et cela nous amène à notre 3e point et je terminerai par là. Mais déjà juste cette affirmation de dire que c'est Dieu qui nous a montré tout cela devrait nous pousser à l'adoration. Tous les jours d'ailleurs. Tous les dimanches, se réjouir devant Dieu. Pourquoi moi? J'ai pas tout compris du message. Mais pourquoi moi? C'est un cadeau que Dieu m'a fait. C'est pour ça qu'on dit si facilement c'est la grâce. C'est l'œuvre de Dieu. Il y a tellement de personnes autour de nous qui sont indifférentes à ce message. Il y a tellement de personnes autour de nous qui trouvent cette histoire belle, mais ça reste une belle histoire. Et pour eux, c'est pas juste leur histoire. Pour moi, c'est pas juste une histoire, c'est mon histoire avec Dieu. Tout cela devrait déjà nous réjouir simplement. Pour adorer le Seigneur, quelle grâce. Et Dieu nous a donné, dans cette 3e partie, la pensée de Christ. Verset 16, hein. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et pourrait l'instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ. Dieu demeure en nous. Dieu nous a donné de voir la vie, la mort, les choses qui passent, la sagesse humaine, les modes, le bien, le mal. Dieu nous a donné la pensée de Christ. Imaginez-vous, vous avez la pensée de Christ qui est avec vous. John Piper, dans le livre que je présente aussi pour cette étude, cite un réformateur, Jonathan Edwards, qui dit ceci: « Lorsque les hommes se convertissent, ils sont appelés, pour ainsi dire, à passer d'une région à une autre, d'un lieu de ténèbres à celui de la lumière. Leur conversion les amène à voir des réalités spirituelles. Ces choses dont ils pouvaient autrefois uniquement entendre parler, qu'ils sont maintenant à même d'apercevoir, ils voient Dieu. Ils voient Christ, le péché, la sainteté. Ils remarquent la voie du salut, le bonheur de prendre plaisir en Dieu et de jouir de sa faveur. » Voilà ce que Dieu est en train de faire dans les cœurs. C'est quand on réalise, en fait, Dieu m'a pardonné, je sais qu'il est avec moi, je sais que je suis réconcilié, je sais que je suis un enfant de Dieu, mais c'est que vous avez la pensée de Christ. On a des yeux nouveaux, on voit ce monde avec un nouveau regard, un cœur nouveau. La gloire d'avoir la pensée de Christ. Il nous a connus d'avance pour notre gloire. Comment? Je reviens, peut-être que je rappelle les choses, mais on peut aller à l'école dans notre pays. On peut être instruit, tout le monde peut y aller. Alors c'est pas le cas malheureusement dans beaucoup de pays dans notre monde. Et vous avez peut-être remarqué, certains sont plus brillants que vous. Et certains sont capables d'étudier des choses incroyables et vous comprenez rien. Il y a des enseignements, il y a je me rappelle des cours où j'étais perdu. Je me dis, mais de quoi ils parlent? Je sais pas vous, mais moi le codage informatique, non. Il y a des esprits supérieurs, il y a des gens qui ont une capacité d'étudier les choses. Waouh! Tu écoutes cette personne et parfois il te perd dans son raisonnement. Il y a des prédicateurs éloquents. Il y a des communicateurs éloquents. On connaît tous des personnes comme ça. Waouh! Mais j'ai pas besoin d'être comme ça pour avoir avec moi la sagesse divine, la pensée de Christ. Imaginez-vous ça? C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Le Dieu qui nous a créés si parfait, des fois si intelligent, il est avec nous. Waouh! Pas besoin d'être un esprit supérieur pour avoir la sagesse de Dieu. Pensez juste à cela. C'est peut-être la pensée qui doit nous accompagner. Quelle grâce incroyable! Et c'est cette grâce que nous portons en nous. Et c'est quelque chose de glorieux. Qu'un être aussi fragile que moi, aussi inconstant, pécheur parfois, rebelle, j'ai un passif familial, je doute parfois tellement de mes capacités, j'attends tellement du regard des autres. Et pourtant Dieu nous dit, je t'aime et tu es, et je suis présent avec toi, je suis dans ta vie. Tu as accès à la pensée de Christ. Oh, je porte en moi-même cette identité de Jésus-Christ. Par l'action de quoi? Pas de moi, mais de Dieu. Alors qu'est-ce que ça implique pour nous? Les amis, on n'a pas besoin d'être ébranlé par la sagesse des hommes. Tu peux écouter, dialoguer avec ceux qui ne te comprennent pas. On va pas aller s'isoler dans un monastère, mes amis. On peut se confronter aux autres. On n'aura probablement souvent pas le dernier mot. C'est pas grave. Mais en même temps, prends confiance dans cette sagesse de Dieu. Sois fier de cette bonne nouvelle, tout simplement. Parce que c'est pas à la mode et ça remonte. Et je suis tellement encouragé par des biographies qui datent des fois de quelques dizaines d'années, mais parfois quelques centaines d'années, voire encore plus loin. On a la Bible qui donne des témoignages de gens qui ont vécu avec le Seigneur il y a déjà 2000 ans, vous imaginez? Cette sagesse de Dieu qui dépasse les modes. Prends confiance dans ce message. Cela remonte avant la création. C'est le cœur et la pensée de Dieu. Vous êtes peut-être comme moi, vous n'étiez pas le grand génie à l'école. Vous n'êtes pas celui qui est grand aux yeux du monde. T'as pas besoin de ça. L'Esprit de Dieu te révèle une bonne nouvelle et tu fais partie des enfants de Dieu, des rachetés. Et ça implique aussi une deuxième chose, et ça apparaît dans la suite de ce texte, ça implique aussi que tu grandisses dans cela. C'est l'expression un peu bizarre, de quoi je veux parler? On est encouragé à grandir dans notre compréhension de l'Évangile. C'est simple, un enfant de 5 ans, je l'évoquais, peut le comprendre, croire et être sauvé. Mais en même temps, tu peux passer ta vie à comprendre cette beauté, ce beau message. Et parfois tu découvres des richesses, parfois t'es ressourcé en revenant à l'évangile, à l'essentiel. C'est riche, c'est beau. Et moi j'ai été touché dans mes années d'études bibliques, là, ces dernières années, par des enseignants qui avaient une vie avec le Seigneur depuis 40 ans et qui nous parlaient de cette grâce, de cette conversion, de ce découvert du Seigneur comme si c'était hier. Wow, c'est ça la beauté de l'évangile. Rappelez-vous ce qu'on a lu en début de ce texte, de ce temps au chapitre 3 où Paul disait « Vous êtes des petits enfants, vous n'avez pas grandi. » Oui, il est possible de grandir, d'être affermi dans notre foi. Et on peut être affermi par la vie du Seigneur Jésus-Christ, par la vie de l'Esprit en nous. Alors mon encouragement à chacun, c'est poursuivez, encourageons-nous. Discutons entre nous, partageons comme on l'a fait simplement dans nos témoignages qu'on peut donner. Parfois ça nous encourage. Retrouvons-nous. Parfois allons dans des textes plus difficiles comme ce texte qui n'est pas facile quand on le lit. Et peut-être à la fin de la journée, tu dis, bon là, j'arrête, j'ai pas tout compris, et peut-être que le lendemain, tu apprendras d'autres choses. pas simplement grandir dans la connaissance de Christ, mais grandir aussi dans le caractère de Christ. Et je voudrais juste prendre avec vous ce chapitre 3, là, le verset 3. Qu'est-ce que Paul reproche à ces Corinthiens qui grandissent pas? Pourquoi vous grandissez pas? Pourquoi vous êtes encore des enfants? Parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, parmi vous, il y a de la jalousie, des disputes, des divisions. N'êtes-vous pas dirigé par votre nature propre et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine? Paul est en train de montrer, vous grandissez pas dans l'évangile parce que vous vous querellez, parce que en vous, vous avez encore des attitudes toute humaine. C'est intéressant, l'évangile, c'est pas juste des idées, c'est pas juste une bonne nouvelle. En fait, c'est aussi la présence du Saint-Esprit qui vient te transformer, qui vient transformer ton caractère. Christ en nous. Paul, il est en train de dire aux Corinthiens, je vous nourris encore à la petite cuillère. Je vois que c'est trop difficile pour vous parce que quoi? Vous vous chamaillez, vous avez des querelles, vous êtes des enfants dans la foi. Quand l'évangile, cette bonne nouvelle t'a saisi, tu grandis. Il y a une transformation intérieure. Et ça peut prendre du temps. Et c'est ce que je voudrais nous encourager aussi à faire, c'est de se dire, Seigneur, tu es en moi, la sagesse de Dieu est en moi, viens transformer ce qui n'est pas ta gloire. Je me mets en colère contre mon conjoint, je peux jurer, je peux être énervé, je peux chercher ma valeur dans le regard que les autres ont, je peux me sentir incapable. Seigneur, je sais, c'est pas ta gloire. Je retombe dans ce même travers. Seigneur, viens transformer, je sais que ça, c'est pas glorieux, c'est pas la bonne nouvelle. Mes amis, il y a de la place pour grandir. Soyez fiers de l'évangile. Soyez fiers de cette sagesse de Dieu qui a été un jour révélée à nous. Parce que l'Esprit de Dieu nous l'a confiée. Je relis simplement le résumé que je vous ai laissé. L'évangile, la bonne nouvelle, c'est la sagesse de Dieu. Ça vient du cœur de Dieu. C'est une bonne nouvelle extraordinaire. C'est un plan de secours qu'aucun homme n'aurait pu imaginer. Et si c'est une bonne nouvelle pour vous, c'est parce que l'Esprit de Dieu vous l'a révélé. Parce qu'il y a une œuvre du Seigneur. Et c'est la sagesse de Dieu. Et elle est avec vous. C'est pas la sagesse de Dieu. Des hommes, mais c'est l'Esprit qui nous l'a fait connaître.